Docteur Jean-Pierre Française, bonjour.
Oui, bonjour Sandra, bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Mon émission était sur les petits déjeuners jusqu'à maintenant, donc on va parler des pains. Je vous signale déjà tout de suite qu'il y a eu une excellente émission sur la 5 qui s'appelle Enquête de santé, qu'on peut revoir en replay sur la 5, justement sur les céréales. Le titre c'est « Céréales, est-ce qu'on nous roule dans la farine ?» C'était donc un titre humoristique. Alors donc, dans la précédente émission, j'avais esquissé les différences entre pain de blé tendre classique ou dit de tradition. Ces deux types de pain qui existent tous les deux sous forme de baguettes allongées ou de boules. Les baguettes classiques sont faites avec de la farine T55 et les pains de tradition avec la farine T65. Mais dans certains cas, est utilisé aussi du T55 qui est moins cher. Alors, j'ai oublié de dire qu'il y avait eu quelques questions à la fin de la précédente émission. Je vais quand même y revenir tout de suite. Quatre questions, je vais d'abord en prendre deux. Une excellente question d'ailleurs en disant « Je prends des flex d'épeautre sans sucre, mais je lis cependant glucides 67 grammes, sucre 30 grammes, que comprendre ?» C'est une excellente question, mais en même temps on ne comprend pas très bien, donc je vais l'expliquer. Glucides, ça veut dire la totalité des sucres, c'est-à-dire les sucres complexes et les sucres dits rapides, donc là 67 grammes. Il y a donc là 64 grammes de sucres complexes et 3 grammes de sucres simples comme du glucose. Et ces 60 grammes de sucres complexes sont les amidons. C'est normal quand dans les céréales, il y ait beaucoup de glucides complexes. Et c'est bien qu'il y ait peu de sucre. Souvent, quand il y a beaucoup de sucre, c'est au-delà de 3 grammes, hein, c'est-à-dire 10 grammes et tout, c'est qu'il y a des sucres ajoutés. Deuxième question, c'est une question aussi de Monique. Quels sont les dangers à manger du miel? Y aurait-il des risques à associer le miel à certains aliments? Je dis non. Simplement, c'est aperçu que les abeilles pouvaient transporter le germe du botulisme, qui est un germe qui vit dans la terre, mais qui, si on l'ingère, peut, par les toxines qu'il produit, qui franchissent la barrière intestinale, donner des paralysies neurologiques à cause de ces toxines. Et donc, dans le miel, qui n'est pas un produit cuit, ça peut transporter quelques spores de ce germe. Et il ne faut pas le consommer avant l'âge de 12 mois. Hein, donc les grands-mères qui veulent faire plaisir à leurs petits bambins, il vaut mieux pas leur donner une cuillère de miel pour leur faire goûter avant l'âge de 12 mois. Voilà. Sinon, il y avait deux questions sur les qualités nutritionnelles du millet et du sarrasin, qui sont des cousins du blé. Hein. J'en parlerai un peu plus loin, peut-être dans l'émission. C'est une question d'Albert. Parce qu'on va d'abord parler donc du blé tendre et de l'histoire du pain classique et du pain de tradition. Donc je reviens à mon propos du jour. Et en 2016, il y avait une enquête qui mesurait ce que les Français mangeaient. Donc la baguette dite de tradition, je vais la définir tout à l'heure, était en tête 38%, donc plus d'un tiers des consommateurs, la baguette classique 22% et le pain complet en dernier 4%. On verra, c'est à la mode le pain complet, mais qu'il faut faire attention, prendre que du pain complet bio, on y reviendra. Alors depuis une dizaine d'années, notre consommation de pain par jour, elle diminue pour atteindre à peine 100 grammes, c'est-à-dire bien moins qu'une demi-baguette. Alors dans l'élaboration du pain classique, il est possible d'ajouter trois types d'additifs qui permettent une fermentation plus rapide que la fermentation ancestrale dite alcoolique. Il s'agit de sel, d'acide acétique, d'acide lactique ou d'acide ascorbique. L'acide ascorbique étant de la vitamine C. Il y a rajouté systématiquement un de deux additifs émulsifiants autorisés, soit le E322 à base de lécithine de soja, soit du E471 qui sont des glycérides d'acide gras. Alors on entend parfois que dans une baguette classique, 14 additifs sont utilisables. Heureusement, la totalité de ces additifs n'est pas utilisée dans une même baguette. Il n'est d'ailleurs pas prouvé qu'ils génèrent un problème de santé. Par contre, on sait qu'ils sont utilisés pour faciliter le travail du boulanger et uniformiser le type de production. Selon un boulanger interrogé pour une enquête de 60 millions de consommateurs en 2019 sur les pains, je cite ce qu'il dit. L'ajout d'additifs permet d'obtenir une meilleure tolérance à l'excès comme au manque de fermentation, une qualité constante du pain, une facilité des gestions de commandes de matières premières. Par contre, il rajoute aussi que l'ajout de différents additifs comme la lécithine de soja E322 baisse la qualité du produit final. Alors, cette E322 est utilisée pour les baguettes classiques et non dans le pain tradition, dont les constituants sont moindres ou sélectionnés. Et donc, en effet, autant consommer du pain de tradition, car aucun des additifs n'y est autorisé. Et en plus, il y a deux autres raisons, une raison écologique et une raison sanitaire. Alors, la raison écologique, c'est consommer du pain avec moins d'additifs, ça diminue le recours à l'industrie chimique et donc notre trace écologique. On en parle souvent. La deuxième, elle est sanitaire, c'est-à-dire que la baguette classique dite blanche est faite avec la farine T55, qui est très raffinée. Par contre, la baguette tradition est faite avec la farine T65, donc qui est moins raffinée, qui apporte un peu plus de fibres. Et c'est intéressant. D'autant que la moyenne des Français ne consomme pas assez de fibres. La moyenne des Français en consomme 18 grammes par jour, qu'il faudrait au moins 25 grammes. Or, ces fibres sont essentielles au sentiment de satiété, à la régulation du transit, et elles permettent l'aliment engendre un index glycémique plus bas, donc pour la baguette tradition, plus bas que celui de la baguette ordinaire, c'est 55 au lieu de 80. Alors cet index plus bas, je rappelle que par exemple le glucose c'est un index 100, cet index plus bas traduit une moindre montée de la glycémie et donc de l'insuline, ça fait donc beaucoup travailler notre pancréas. Et faire de l'insuline, c'est utile pour faire utiliser par nos cellules les fameux sucres, mais par contre en faire trop va faire stocker des corps gras dans notre tissu adipeux et entraîner souvent une petite hypoglycémie secondaire, le coup de fringale des 11h du matin. Alors on trouve fréquemment chez son boulanger des baguettes avec des noms de marques. Ces baguettes sous label correspondent pour la plupart du temps au cahier des charges des pains de tradition française. Donc il suffit de bien demander à son boulanger si c'est un pain de tradition. Il y a donc moins d'ingrédients et donc a priori c'est une plus gage de qualité. Et aussi donc plus de fibres. Alors ce sont les grandes minoteries qui ont créé les mélanges de farine, auxquelles ils ont donné des noms et qu'ils fournissent comme ça à leurs boulangers adhérents. Alors je vous donne quelques noms, les baguettes, les banettes, qui sont faits par les moulins de l'Est de la France, Campaillette, Grand Siècle, c'est les grands moulins de Paris, la marque Festive, avec 26 meuniers répartis un peu partout en France, donc ça permet d'avoir une consommation locale, voilà, ou la marque Rétrodor. Alors le boulanger dépositaire, il suit scrupuleusement la méthode de préparation fournie par la minoterie et commercialise un pain sous le nom de cette marque. Et le consommateur a donc l'assurance de retrouver à peu près la même qualité, quelle que soit la boulangerie dans laquelle il se rend, en utilisant donc ce même pain. Les minoteries qui ont bien compris le souci de qualité des consommateurs proposent désormais des mélanges de farine dont la qualité ne fait que progresser. Alors plus de farine avec des labels, label rouge, label bio, label CRC, on va voir tout ça. Donc autant bien prendre une baguette de tradition dont la farine T65 a en plus un label rouge. Alors première des raisons pour lesquelles c'est intéressant qu'il y ait un label rouge pour le pain de tradition, c'est que dans le pain tradition qui pourrait être sans label rouge, parce que ça peut exister, mais de moins en moins, les farines de fèves et de soja sont autorisées en petite quantité limitée, alors que dans le label rouge, c'est interdit. C'est intéressant en particulier pour ceux qui sont allergiques au soja, alors c'est quand même assez rare, hein, qu'en 10e position des allergènes de l'adulte, l'allergie au soja, mais suffisamment fréquente pour faire partie de la liste des fameux 14 allergènes à déclaration obligatoire qui obligent les industriels à les mentionner de façon visible depuis une directive européenne de 2003. Alors dans cette liste figure évidemment aussi le blé, le sésame, qui sont plus fréquemment en cause dans les allergies alimentaires que le soja. Alors, la réglementation européenne de 2011 et un décret français de 2015 ont apporté des précisions pour que les produits pré-emballés, donc dans les grandes surfaces ou non pré-emballés comme dans les boulangeries, aient une uniformisation des étiquettes. Alors, pour les produits pré-emballés, l'allergène devra être inscrit en gras, en italique ou en souligné. Et les produits non pré-emballés, l'indication de la présence d'allergène devra se faire par écrit à proximité du produit, de façon à ce qu'il n'existe aucun doute pour le consommateur. Alors, est-ce que c'est toujours appliqué? Je ne sais pas, moi je n'ai pas fait très attention en allant chez le boulanger. Deuxième raison, on peut penser qu'il y a moins de résidus de pesticides dans le pain tradition avec farine label rouge que dans le pain issu de farine classique sans label. Car pendant le stockage des grains de blé, avant transformation en farine, les pesticides sont interdits dans le label rouge. Pour pouvoir se passer d'insecticides de stockage, la filière label rouge a adopté une ventilation de refroidissement inférieure à 12 degrés pour stopper la reproduction et la survie d'insectes. Et voilà. Dans l'émission là, d'enquête santé, il y a 2-3 jours, sur la 5, ils interrogeaient un agriculteur qui stockait ses grains et qui donnait aussi une nouvelle technique où ils injectent du CO2 dans le silo pour faire disparaître ces insectes, en particulier les charançons. Voilà, donc non seulement un refroidissement, mais l'utilisation de CO2. Alors dans les blés classiques sans label, il y a 2 familles d'insecticides de stockage et un produit synergisant qui sont autorisés. Les 2 familles d'insecticides sont un organophosphoré comme le pyrimiphos et un des 3 pyréthrinoïdes dont on avait déjà parlé. C'est des pyréthrines, cypermétrines, deltamétrines, donc c'est les noms chimiques de ces pyréthrinoïdes. Alors ces produits sont suspects d'entraîner des phénomènes de perturbation endocrinienne. Ils font partie d'une liste, d'une base de données internationale qui est gérée par des scientifiques où ces produits chimiques figurent comme étant suspect de cette perturbation endocrinienne. Alors pour limiter les risques, les autorités européennes sanitaires ont fixé une dose maximale d'application sur les cultures et un temps d'autorisation, hein, c'est-à-dire par exemple pas tant de temps avant la récolte, pas après tel stade de développement de la céréale, voilà. Donc chaque pesticide a une limite maximale, et donc évidemment le pain aussi. Alors le 5e produit, on avait dit qu'il y avait un produit synergisant, c'est le pyréronyl, qui est une action combinée renforçatrice des insecticides, c'est pour ça qu'il est classé comme synergisant. Alors il fait l'objet d'une controverse sanitaire concernant son innocuité pour la santé et l'environnement. Alors il n'a pas de classement toxicologique précis à l'heure actuelle, mais Bayer qui le produit le classe quand même comme toxique pour les organismes aquatiques. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme résidu d'insecticide de stockage dans le pain sans label, puisqu'il est autorisé dans les pains sans label, avec farine sans label? Alors, dans une enquête de 2011, qui était à propos de céréales pas uniquement cantonnées au blé, mais aussi à d'autres céréales comme l'avoine, le maïs, l'orge, le riz, le seigle, il avait été établi que seulement un quart des grains de céréales contenaient du pyrimiphos, hein, ce fameux insecticide de stockage que j'ai cité plus haut. Et la contamination à partir de ce pyrimiphos ne représentait à l'époque, ça a été calculé, seulement 7% de la dose admissible pour les enfants et à peine 4% de celle des adultes. Alors, aucune publication scientifique ne cite explicitement les autres insecticides utilisés lors du stockage des grains de blé en silo. Alors, hormis cette dernière période de stockage, hein, des grains de blé, il y a 2 périodes entre le semis de blé, du blé et la récolte des épis, où certains types de pesticides sont utilisés autant dans la filière classique que dans la filière label rouge. Là, c'est important de comprendre ça. Et est-ce que ça a des conséquences, hein, donc, voilà. Alors, on prend l'exemple des blés plantés en France, qui est le premier pays producteur européen. Lors de la campagne 2019-2020, près de la moitié de la production de blé tendre en grains avait été exportée, et plus de la moitié de cette exportation se faisait en particulier en Afrique du Nord et en Afrique centrale. Donc ce n'est pas un souci franco-français de se soucier d'un blé sain pour la santé, hein. Ça dépend aussi de ce qu'on envoie dans les pays tiers. Donc en France, on plante majoritairement ce qu'on appelle un blé d'hiver, qui est semé entre septembre et novembre et récolté en juillet-août. Alors, les deux périodes où on peut appliquer des pesticides sont la première et très courte période de 1 ou 2 mois d'interculture après la récolte d'été et avant le nouveau semis d'automne. Et la deuxième période qui est plus longue, entre la levée progressive des épis, plus ou moins retardée par les froids de l'hiver, et la récolte en début d'été. Alors, dans la première période d'interculture, le glyphosate, qui est un herbicide bien connu, est nécessaire sur environ 20% des parcelles où du blé tendre est cultivé. C'est des données de l'Agence sanitaire nationale. Ce glyphosate n'est plus utilisé en pré-récolte immédiate depuis 2016, où la Commission européenne en avait incité à en supprimer l'usage. Donc, et en France, une enquête a été faite en 2017 qui a confirmé que le glyphosate n'était plus utilisé en pré-récolte, donc juste avant qu'il soit stocké sous forme de grains. Je dis en principe car l'enquête avait été faite seulement sur quelques 200 parcelles, et donc j'espère que tous les agriculteurs sont vertueux sur ce sujet. L'application de ce glyphosate est donc limité d'août à septembre dans le temps d'interculture. Cela permet de penser qu'il n'y a pas de résidus de glyphosate dans nos farines classiques comme dans celles de la mer rouge, bien qu'il puisse y avoir des reportages qui sèment le doute. On peut penser que dans les farines, il n'y en a pas parce que les grains sont stockés plus de 10 mois après leur application. Et qu'en plus, ces grains ne sont pas forcément transformés de suite en farine et en pain. Il peut y avoir d'ailleurs encore plusieurs mois entre-temps. Par contre, pour la deuxième période, pendant la culture et avant la récolte, il y a aussi certes un usage encadré de nombreux pesticides, dans le temps et en dose. Il y a trois types de différents principaux, les fongicides, herbicides, insecticides. En moyenne, en 2017, une parcelle de blé tendre était traitée environ 7 fois en moyenne en France, 3 fois par des fongicides, 3 fois par des herbicides et une fois par des insecticides. En fait, ça dépend des régions, certaines régions comme l'Alsace où c'est que 3 fois et d'autres régions où c'est 8 fois. Ça doit dépendre de l'humidité du terrain donc de la facilité, ce qui est certains champignons, certains insectes. Alors entre 2019 et 2020, quelques pesticides ont été interdits. 3 fongicides, en tout cas, interdits. 2 de la famille des triazoles et 1 de la famille des organochlorés. Le chlorothanil, là c'est le nom chimique, hein, c'est pas le nom commercial, qui était utilisé depuis 1970, qui a été récemment suspecté comme être cancérigène. Donc elle a été supprimée. Donc on pourrait se réjouir si on en restait là en disant ça diminue. Eh bien, malheureusement, dans le même temps, viennent d'être autorisés 2 fongicides de la classe des SDHI. Alors, SDHI, c'est en fait inhibiteur de l'enzyme SDH, qui comporte 11 produits chimiques sur le dans le commerce. Alors, ils sont autorisés parce que l'Agence de sécurité sanitaire n'a pas reconnu toxicité certaine chez l'être humain, alors que certains scientifiques craignent une toxicité chez l'être humain, mais uniquement à partir de résultats expérimentaux sur des cellules humaines en culture. C'est une étude assez sérieuse, dans une revue sérieuse, qui était faite en novembre 2019, qui mettait en évidence, je cite, que 8 molécules fongicides SDHI commercialisées en France ne se contentent pas d'inhiber l'enzyme, l'activité de l'enzyme SDH, des champignons, mais sont aussi capables malheureusement de bloquer celle du ver de terre, de l'abeille et de cellules humaines, induisant un stress oxydatif dans ces cellules humaines, menant à la mort cellulaire de ces cultures. Bon. Voilà. Alors, question suivante. Y a-t-il des résidus de pesticides dans nos blés suite à l'usage de pesticides? Y a-t-il une différence significative entre pain classique et pain tradition? Alors, je résume tous mes précédents propos. Parmi les deux types de blé classique et la belle rouge, d'abord en interculture, on peut utiliser pour les deux du glyphosate, mais semble-t-il c'est très peu fréquent, on avait dit 20% des cultures. Lors de la culture, environ 7 traitements en moyenne, hein, dont 3 en fongicide, 3 en herbicide, 1 en insecticide. Par contre, lors du stockage des grains, les grains de blé classique sans label nécessitent l'usage d'insecticides, alors que c'est interdit avec les labels rouges. Alors, donc peut-on penser que dans le pain tradition, il y a moins de résidus, puisque c'est dans la période avant mouture en farine que les grains de label rouge ne sont pas saupoudrés d'insecticides, et que c'est finalement la seule différence avec les grains de blé classiques. Alors, dans l'émission qu'il y a eu il y a 2 jours sur la 5, ils ont confirmé que les résidus de pesticides qu'on trouve dans les farines classiques sont dus aux insecticides de stockage. Et donc, dans les pains traditionnels, en principe, on n'en trouve pas. Alors, jusqu'à maintenant, les ONG qui s'intéressent à ça, je pense à Génération Future, qui publie régulièrement des résultats de présence de pesticides dans les aliments. Ils font état de pourcentage de résidus par classe d'aliments, mais sans rentrer dans le détail, label par label, et en plus, sans nommer ni les classes de pesticides, ni les noms chimiques propres. Donc c'était jusqu'à maintenant assez difficile. Il y a des zones d'incertitude, et on ne sait pas très bien en détail quels sont les résidus qui sont retrouvés ou pas, les noms. Et dans l'enquête de 60 millions de consommateurs de février 2019 qui avait évalué la qualité de 10 baguettes classiques et 4 baguettes tradition, ils se contentaient de décrire la présence ou la trace de pesticides. Alors, on comprend cette étude, même si ça n'a pas été clairement exprimé, que le terme présence de pesticides évoquait un taux proche ou dépassant la limite maximale de résidus, de pesticides ou du cocktail de quelques pesticides présents, et le terme trace évoquait un taux bas. Alors, que conclut cette enquête? Sur 10 baguettes classiques, une avait, c'est en 2019, une avait la présence de pesticides, c'était issu d'un artisan boulanger, 4 des traces à partir de pain issus de marques franchisées de boulangerie, et les 5 baguettes qui n'avaient aucune trace étaient toutes issues de grandes surfaces. Donc, 5 sur 10, soit 1 sur 2, était entre guillemets contaminé. Est-ce préjudiciable puisqu'on ne connaît pas le produit pesticide précis et on connaît si peu d'ailleurs la toxicité précise de bien des pesticides, même si on a des doutes. Par contre, sur les pains de tradition, un seul avait la présence de pesticides. Cela venait de chez un artisan boulager. Par contre, les 3 autres étaient indemnes de toute trace. Donc, l'échantillon est faible, mais ici, c'était qu'une fois sur 4 que le pain était contaminé, donc 2 fois moins qu'avec le pain classique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que, normalement, les farines pour pain de tradition label rouge font l'objet de contrôles réguliers par des laboratoires agréés par les pouvoirs publics, contrôles menés à plusieurs niveaux, au niveau des exploitations agricoles, des organismes de stockage, des moulins. Alors comment est-ce possible que ce pain chez ce boulanger n'ait pas été conforme puisqu'il avait une présence de pesticides? Alors la question n'a pas été résolue dans l'article, mais on peut se poser raisonnablement les questions. Est-ce qu'il a été vérifié? Est-ce que l'artisan boulanger prétendait vendre du pain de tradition, donc c'est un petit peu plus cher, qui contenait... c'était en fait du pain classique, qui était donc avec des traces de pesticides. Ça peut venir aussi du fait que le boulanger produisant à la fois des baguettes classiques et des baguettes tradition, il peut y avoir une contamination par une farine classique si la chaîne de production avec le pain tradition n'était pas bien séparée, comme l'exige le cahier des charges. Voilà. Alors, voilà. Alors, comme moi j'avais lu, et ça a été corroboré par l'enquête de santé qui est passée sur la 5, que le risque sanitaire en termes de résidus de pesticides est principalement lié aux résidus d'insecticides de stockage, parce que la persistance du produit de ces résidus de stockage est importante, de 3 à 9 mois. Voilà. Par contre, les pesticides qui ont été répandus en interculture ou au moment de la montée des épis, comme ça date d'il y a très longtemps et que la persistance du produit est courte, ça explique pourquoi normalement dans le pain tradition label rouge, on ne devrait pas trouver de pesticides. Alors, il y a une autre filière de label qui s'appelle le label CRC. Donc certains pains qui ont une de tradition, qui ont un label rouge, ont en plus un label CRC. CRC, ça veut dire culture raisonnée contrôlée. Et 10% des blés cultivés en France ont ce label CRC. Alors, elle se distingue, cette filière CRC, par rapport à la filière classique et label rouge, par le fait qu'elle interdit deux pesticides. Un agent régulateur de croissance, bon, qui n'est pas vraiment un pesticide, mais c'est un agent régulateur qu'on peut utiliser lors de la période de culture, et le glyphosate aussi qui est interdit. Alors, cette filière CRC a la même exigence que la filière label rouge pour le moment du stockage des grains, pas d'insecticide de stockage. Alors, pourquoi en 2019, dans l'enquête de 60 millions de consommateurs, il n'était pas du tout fait mention de pain issu de cette filière ? C'était parce que cette filière n'était pas encore très développée à l'époque. Et récemment, le groupe d'intérêt économique CRC a profité de son assemblée générale en décembre 2020 pour officialiser le lancement de la première campagne de blé tendre CRC certifié sans résidus de pesticides pour les récoltes de 2021. Une centaine d'agriculteurs et 25% des organismes stockeurs adhérents se sont engagés dans cette phase pilote. Et pour une meilleure rémunération des acteurs, vu les investissements conséquents pour les adhérents, une prime a été de 85 euros par tonne a été fixée pour la filière. Cette prime est versée par les meuniers à l'organisme stockeur qui lui-même en verse une partie aux agriculteurs. Alors, il y a un exemple de farine label rouge qui a aussi le label CRC pour les pains de tradition. Cette farine s'appelle Platine. Elle est faite par la meunerie des Grands Moulins de Paris, mais il y en a d'autres. Donc, en gros, j'ai démontré qu'il valait mieux manger du pain de tradition qu'une baguette classique.
Docteur Jean-Pierre Française, nous avons une auditrice qui souhaiterait poser une question. Il s'agit de Christiane. Christiane, c'est à vous.
Oui, bonjour docteur. Moi, je vous appelle parce que mon mari était boulanger. Bon, il est décédé maintenant. Mais quand on a eu le commerce à notre nom, il y a des personnes, des représentants qui venaient nous voir pour nous proposer tel et tel produit pour que le pain soit plus blanc, tel machin pour faire ceci, tel machin pour faire cela. Donc, vous voyez qu'en dehors des pesticides qu'on a dans les blés et tout ça à l'extérieur, il y a aussi des choses comme ça qui sont mises dans le pain pour... Et en plus, moi, je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est vrai que comme j'ai des problèmes d'intestin et tout, quand je mangeais du pain, après, quand il n'était plus à son compte, le pain normal, j'avais tout le temps mal au ventre, je ne pouvais pas le digérer. Et la banette, je la digérais bien parce qu'elle était pas, c'était pas la même farine, parce qu'il y a aussi dans certaines farines, ils rajoutent un petit peu de fèves. 1% oui. De fèves, donc moi ça me donnait des gaz et j'étais malade comme un chien. Donc vous voyez toutes les choses en dehors des pesticides qui peuvent encore se rajouter.
Oui, ben, c'est exactement ça, c'est exactement ce que j'ai dit au début de l'émission. Vous parlez de la banette, oui. C'est effectivement un pain tradition, où c'est une marque déposée donc, par des grands meuniers, des grands moulins. Et il y a des, donc effectivement des boulangers franchisés qui ont un contrat avec ces moulins. Et la bannette est exempte de farine de fèves. Oui. Alors dans le pain classique, il y a effectivement de la farine de fèves qui peut effectivement créer des ballonnements, mais comme certaines autres légumineuses aussi. J'en parlerai aussi dans la prochaine émission quand on parlera sur l'hypersensibilité au gluten. Ça mérite pratiquement une émission entière pour faire le comparatif entre les céréales qui en contiennent du gluten et les céréales qui n'en contiennent pas. Merci de votre témoignage parce que c'est vraiment un témoignage très pratique et voilà, c'est excellent parce que ça correspond à une illustration de ce que j'ai dit. Voilà, merci oui, Christiane voilà. Et à bientôt avec vous à Radio Maria.
Oui, à bientôt.
À bientôt. Merci de votre intervention.
Au revoir.
Alors je vais parler un petit peu des pains bio et montrer comme il y a beaucoup d'exigences pour les agriculteurs et aussi les boulangers. Si Christiane nous écoute toujours, elle comprendra. C'est pour ça que c'est finalement plus cher, mais ça le mérite, parce qu'il y a vraiment plusieurs étapes, en particulier pour les agriculteurs, mais aussi pour les boulangers, plusieurs étapes à respecter, et donc c'est une façon de faire qui mérite d'être un petit peu détaillée pour montrer le travail que ça représente et les remerciements qu'on peut faire à ceux qui s'y lancent pour notre plus grand bien, pour le leur, parce qu'ils consomment le produit, et notre plus grand bien à nous aussi. Alors en effet, au cours de la production et la fabrication, aucun produit chimique de synthèse ou organisme génétiquement modifié ne doit être utilisé. Il doit se passer de fongicides, herbicides, insecticides, les synergisants, comme le piperonil. Donc je vais donner une liste succincte des contraintes autour de la culture. Alors je commence. D'abord, une mise en place d'une rotation des cultures efficace dans la prévention comme dans le développement de plantes adventices indésirables, ou d'animaux ou d'insectes ravageurs. De maladies à champignons, il y en a beaucoup. De mise en place de cultures associées, par exemple des pois d'hiver, de la févrole ou du pois chiche qui peuvent être associés au blé. Des couvertures de sol en interculture avec des engrais divers, VER, VERTS, ce qui permet d'enrichir les sols en diminuant le ruissellement des pluies, l'érosion des sols aussi. Des impératifs agronomiques dans la date, la densité, la profondeur des semis, un choix et un mélange de variétés. D'ailleurs, il y a à peu près 780 espèces au catalogue national des espèces de blé tendre. Ce catalogue est révisé chaque année. Et d'ailleurs, pour les pains bio, c'est souvent des variétés un peu spéciales qui sont pas employées trop dans les pains classiques. Alors, autre impératif, des types de fumier particuliers dans lesquels il n'y a pas de graniminés indésirables qui risquent après d'être semés au sein des épis de blé. Un truc très à la mode, c'est tout ce qui est les plantations de haies en bordure ou d'arbres au milieu des champs de blé. C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Alors je vais faire un petit rappel historique. Tout le monde voit en Beauce C'est dans cette zone de région céréalière, il y a d'immenses terrains sans arbres. C'est parce que dans les années 60, tous ces haies et arbres ont été arrachés, parce que ça gênait les cultures intensives. Il y avait d'ailleurs dans une archive de l'Institut national de l'agriculture, de l'INA, l'INA c'est l'Institut national d'audiovisuel. Il était dit 1 kilomètre de haies, c'est 1 hectare de terrain perdu. Bon, ça, c'était selon la logique de l'époque. Et tout ça devrait changer parce que même le gouvernement veut stimuler la plantation de 7000 km de haies d'ici 2022. Alors, le rôle des haies, c'est de protéger le sol du vent, de la lumière, de la chaleur en plein été ou de faire venir des insectes utiles comme les chrysopes qui elles-mêmes mangent des insectes nuisibles. Ou donc des arbres plantés, à raison de 35 arbres par, par hectare, qui vont faire venir des oiseaux, des insectes, qui éloignent les ravageurs et les nuisibles. Alors, l'inconvénient, c'est que la manipulation des engins agricoles est un peu plus ardue, mais la récolte devrait être meilleure. Alors, l'intérêt de ces plantations a été d'ailleurs testé par l'INRA. Il y a eu des expérimentations sur un système de blé et arbres qui s'appelle les noyers, hein, qui a montré qu'une parcelle de 100 hectares pouvait produire autant de biomasse en bois et en produits agricoles qu'une parcelle de 136 hectares où arbres et cultures ont été séparés, soit un gain de 36%, donc plus d'un tiers. Parce que les arbres, du coup, qui sont mis entre les champs de blé, ils subissent une coupe qui est exploitée commercialement en fonction du type de bois. Alors, cette majoration de la production, elle résulte donc d'une meilleure utilisation du milieu. En particulier, l'arbre remonte l'eau et les minéraux des couches profondes du sol pour les remettre à la disposition des cultures de surface. En plus, ça crée un microclimat qui protège la culture et les animaux des stress thermiques et hydriques. Et en même temps, donc on peut penser que l'arbre permet d'amortir les accidents climatiques. On sait qu'il y a une stagnation des rendements des céréales en Europe. Autre impératif pour les cultivateurs qui veulent faire du bio, c'est qu'il faut un désherbage mécanique à certaines périodes avec certaines machines et pas d'autres. Des exigences de qualité dans le triage et le stockage des céréales pour éviter des mycotoxines, hein, pour éviter aussi l'ergot de seigle, on en parlera peut-être la prochaine fois. L'utilisation de méthodes de biocontrôle aussi, bien que ce soit encore un peu marginal. Alors maintenant, venons-en aux exigences pour le boulanger. Il doit être certifié par un organisme agréé. En plus, la fabrication donc, et la cuisson des pains bio doit être bien séparée physiquement dans le temps des opérations faites pour des pains conventionnels. S'il utilise des produits de nettoyage et de désinfection, il faut que l'organisme de contrôle en valide l'utilisation. Voilà. Et puis il y a des contrôles annuels qui portent sur l'ensemble du processus de fabrication. Voilà. On a encore quelques minutes pour parler du pain complet, ou bien je réponds à la question. Alors simplement, ce que je vais dire sur le pain complet, c'est que c'est très bien, mais le problème, c'est que, parce qu'il y a deux fois plus de fibres que dans le pain blanc, que ces fibres viennent surtout de l'enveloppe externe du grain qu'on appelle le son, et que malheureusement, c'est dans le son que se concentrent les pesticides. Il y en a 20% de plus de résidus de pesticides dans l'enveloppe que dans le reste de la farine. Donc si on prend du pain complet, il faut absolument prendre du pain complet bio. D'ailleurs, dans l'enquête de 2019, il avait été mesuré 4 pains bio et 8 pains, 4 pains complets bio et 8 pains complets avec farine classique. Et dans aucun des pains bio, il y avait de pesticides. Par contre, il y en avait dans les 8 pains classiques complets. Et donc, voilà, donc il n'y a pas photo. Si on prend du pain complet, il faut le prendre bio. Voilà. Alors, je vais répondre brièvement à la question sur le millet et le sarrasin. C'est Albert qui posait une question sur ses qualités nutritionnelles. Alors, le millet, il faut savoir qu'il y en a 6 variétés différentes. La principale, c'est le millet perlé, qu'on appelle aussi le mil, qui n'y a pas à confondre avec le sorgho. Il est très employé, très cultivé dans les régions sèches au Sahel. Mais aussi en Chine, en Afrique, en Inde, au Pakistan, très souvent il est importé, qui a une production très marginale en France, qui est concentrée en Vendée, dans le Centre, dans le Gers, qui est une association qui s'appelle Terra Millet, qui a été fondée en 2014, qui regroupe les quelques producteurs de millet en France. Et je suis allé voir sur le site Open Food Fact. Il y a 4 marques de flocons de millet qui sont bio, et sur ces 4 marques de millet bio, il y en a une seule qui est dans le millet est originaire de France, d'ailleurs d'un domaine qui s'appelle le domaine de Cardichet en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Les 3 autres, c'est du millet venant d'Ukraine ou de Pologne. Voilà. L'intérêt du millet, c'est que c'est sans gluten. Donc on reverra ça la prochaine émission. Le sarrasin, c'est aussi un produit sans gluten. C'est une pseudo-céréale. C'est ce qu'on appelle le blé noir. Ça donne une farine un peu grise. C'est ni une céréale ni du blé. C'est ce qu'on fait avec du sarrasin, on fait des galettes hein, de blé noir. Voilà, c'est très peu cultivé en France, cultivé en Bretagne, en Auvergne. Il y en a eu beaucoup moins depuis une vingtaine d'années, le nombre d'hectares a diminué et c'est souvent importé de Pologne, Ukraine, Russie ou Lituanie. Elle apporte moins de fibres que dans le pain complet. Il y a peu de pesticides et il y a une marque de flocons sarrasin bio, aussi du domaine Cardichet en France. Voilà ce que je pouvais en dire. Je crois que je vais en arrêter là. Et la prochaine émission, je parlerai de l'hypersensibilité au gluten, donc des céréales qui en contiennent donc le blé, mais aussi l'avoine, l'orge. Et on parlera de tout ça. Et on parlera des difficultés qu'on a à cerner les causes de l'hypersensibilité au gluten. Voilà, Sandra, chers auditeurs.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Au revoir.